Journal d'un meurtrier. Ce même jour, un peu avant minuit. Je suis allé prendre une tasse de thé dans une pâtisserie avec un sandwich. J'en ai acheté trois autres en prévision de la faim à venir. Tout à l'heure, je les mangerai dans mon lit. Je n'ai pas encore faim et je ne tiens pas à me coucher. Je devrais être un peu tranquille et jouir de ma sécurité passagère. Mais je suis tellement mécontent de moi, non pas seulement à cause de cette panique d'aujourd'hui, mais en pensant à toutes celles qui, par la suite, vont m'assaillir. Et puis vraiment, dans ces lits d'hôtel, je ne suis pas chez moi. Il est vrai qu'à Paris, même dans mon domicile, il y a longtemps que je ne suis plus chez moi. Et puis, j'ai l'impression que beaucoup de joies de la vie n'ont plus d'intérêt pour moi. Je dis « beaucoup de joie », pour ne pas dire « toutes ». Je tiens à ne pas exagérer, peut-être à me ménager. Il y a des moments où j'ai l'idée folle de commettre d'autres crimes pour ne pas rester enfermé dans cette étroite histoire, pour me parler à moi d'autres rues que de la rue Mellet et d'autres victimes que de ce sempiternel Sarrebris dont la personne ne m'inspire aucun remords, qui est incapable de m'attendrir ou de me terroriser. Évidemment, si Jeanne était là, je m'embêterais moins. Mais je me dis aussi que si elle était là, je souhaiterais d'être seule. J'étais content de l'étreinte, mais ma faible joie était gâtée par l'idée que ce serait tout de suite fini. J'ai tout de même eu la tentation ce soir de rebrousser chemin, de revenir à Monte-Carlo. Quelle bêtise encore! Si je revenais si vite, Jeanne attacherait une importance exagérée à ce retour. Elle s'imaginerait que je tiens à elle énormément. La vérité est qu'elle me serait commode ce soir. Encore une marque de paresse. Je ne supporterais la vie que si je la varie un peu. Je n'ai pas une grande expérience de l'amour. Je sais tout de même que ce qu'il y a de plus émouvant, c'est le travail d'approche, au moment où la créature désirée est la magnifique inconnue, celle que l'on n'a pas eue encore. Il faut que je fasse un petit effort. Il faut que je secoue cette indolence. J'irai au ciné, dans des restaurants, avec cette idée de connaître une femme nouvelle. Je peux difficilement faire les familles à cause des inconstances de ma vie, qui me défendent, où que j'aille, les séjours prolongés. Je vais sonner la femme de chambre. J'ai sonné. Jadis, depuis l'année où pour la première fois j'ai vu des femmes, je vivais sous la terreur constante des maladies et je me défiais farouchement des personnes que je ne connaissais pas. Maintenant, je crains moins les mauvaises aventures, car il y en a une, d'autre sorte, qui pèse beaucoup sur ma vie et qui diminue singulièrement l'importance de n'importe quelle autre. La femme de chambre ne vient pas. Elle est couchée, c'est probable. Ah, oh, que je m'embête! Je ne vais tout de même pas m'en aller à la recherche d'une maison. Je connais très peu cette grande ville, et je n'ai jamais osé demander cette sorte de renseignement. Moi qui pensais « Je ne suis pas de ces criminels de bas étage qui se font pincer en fréquentant les mauvais endroits. » Il faut croire qu'ils trouvent la vie lourde, comme moi, et que, comme moi, ils manquent de relations. On est fait pour vivre en société, et les assassins n'échappent pas à ce besoin. Je vais sortir un peu. Je n'ai rien à écrire ce soir, et j'ai horreur de ce lit qui ne me promet aucun repos. 30 mai, 9h du matin. Dire que c'est pour moi une distraction que d'aller m'acheter une valise, du linge et des chaussures. Cette nuit, je suis sortie une heure. Je suis allée dans un café très éclairé. Il y avait trois femmes. J'en ai regardé une assez longtemps, mais j'ai escompté tout de suite les quarts d'heure navrants que je passerais avec elles. D'autre part, pour ce qui est de la chose elle-même, Jeanne, ces jours-ci, m'a suffisamment calmée. J'ai bien dormi jusqu'à 8h. J'aurais voulu rester au lit. J'ai tâché de me rendormir, mais que je me tourne à droite, à gauche, la chambre est pleine de soucis vagues. d'autant plus dangereux qu'ils sont imprécis et se dérobent devant l'attaque de la raison. 30 mai, 3 heures de l'après-midi. 30 mai, encore un jour à écrire le nom de ce mois qui date dans ma vie. Joli mois de mai, quand t'en iras-tu? Peut-être, pour ce qui me concerne, t'en iras-tu pour ne plus revenir? Il me semble que j'ai écrit cela sans une sincérité complète, avec la vague idée de conjurer le sort. Je suis allée ce matin dans un grand magasin. Ça m'amusait de faire des achats. Je pensais aussi que je pourrais commencer une petite intrigue avec une vendeuse, mais j'ai eu affaire à une personne un peu défraîchie, puis à une petite assez gentille, mais complètement absente, et qui me proposa diverses paires de chaussettes. Elle faisait son travail machinalement, et quand elle prenait la mesure du pied en mettant la chaussette autour de mon poing fermé, il n'y avait vraiment dans ce geste aucun prélude d'une conversation plus intime. Je ne cessais un instant d'être pour elle le client anonyme. D'ailleurs, et je me hâtais de le constater, elle n'avait vraiment rien d'emballant. Au restaurant, à une table de personnes âgées en voyage, se trouvait une grande jeune femme brune, assez régulière de traits. Elle mangeait lentement, vraiment sans goinfrerie, mais sans le moindre arrêt. Je n'eus pas un instant la tentation d'unir une minute de sa vie à un laps de temps égal de la mienne. 7 heures du soir, même jour. J'ai envoyé 6 000 francs à mon ancienne femme dans une enveloppe scellée de symbos cachés rouges. Ce fut mon travail de l'après-midi, avec un cachet emprunté à l'hôtel, une bougie et de la cire. J'ai donné mon vrai nom à la poste en produisant ma vraie carte d'identité. Je suis très content de moi. Il y a 8 jours, je n'aurais pas distingué avec autant de netteté ce qui se présentait ou non du péril. Il n'y avait aucune probabilité que l'employé des postes eût remarqué mon nom et mes traits sur les journaux qui avaient donné ma photo. Je continue à me raser la moustache. Cela, c'est vraiment une précaution nécessaire. En revenant de la poste, j'ai dormi sur mon lit et j'ai eu un rêve désagréable. Je passais à Lyon, sur un des quais, il y avait une foule qui marchait dans le même sens, et je me suis vue encadrée par 2 bons hommes qui devaient être mes types du train. Sans rien me dire, ils étaient venus se mettre l'un à ma droite, l'autre à ma gauche, et nous marchions au pas de l'oie. Je pensais que jamais je ne pourrais m'échapper. Ce rêve a fini en eau de boudin. Je crois vaguement que l'on s'est trouvés tous dans un pré au bord de la rivière. Mes 2 hommes étaient assis sur l'herbe, assez loin, et ne faisaient pas attention à moi. Je n'ai eu aucun soulagement en me réveillant, car je souffrais d'une douleur très vive, un peu au-dessus de l'aine droite. Jadis, il y a 3 ou 4 ans, un médecin m'avait dit « Votre appendice vous jouera de mauvais tours. À votre place, je m'en séparerai. » La douleur n'a duré que quelques secondes, mais l'embêtement a persisté. Si j'ai une attaque de ce côté-là, le moment sera vraiment mal choisi. Il faudrait aller à l'hôpital. Je ne pense pas qu'ils vous demandent, dans des cas urgents, des pièces d'identité très complètes, car je ne songe pas à me faire hospitaliser sous mon nom. Qui sait s'il n'écrirait pas à Paris, au cas où mon cas serait grave? À mon concierge, par exemple, pour qu'il prévienne ma famille? Je ne sais du tout si cette hypothèse est improbable. Je n'ai aucune notion sur les usages des hôpitaux. Il vaudrait mieux ne pas être malade et ne pas entrer dans ces complications. 31 mai, 9 heures du matin. J'écris ces lignes à Paris, dans un café, tout près de la Bastille. Je ne sais exactement ce qui m'a pris hier soir. J'ai eu tout à coup horreur de cet hôtel de Lyon. J'ai réglé ma note et je suis partie sans retard. Il m'a semblé que si je restais à Lyon, j'allais faire des bêtises. Peut-être la plus grave est-elle celle que j'ai commise en revenant ici. J'ai eu d'abord l'idée de m'arrêter à Dijon, avec la sournoise pensée de retrouver la petite bonne de l'allée. Mais serait-elle là? La vérité est que j'en ai assez de voyager et que je veux revenir à Paris, coûte que coûte. Je suis hantée par l'idée que, dans la loge de mon concierge, il s'accumule un courrier pour moi. Je n'attends rien d'intéressant, mais qui sait? C'est énervant de laisser des enveloppes fermées. Je ne sais d'ailleurs pas du tout comment je pourrais aller chercher mon courrier, puisque la police est à mes trousses. Je n'ai aucune raison de penser que mon concierge, par un dévouement héroïque, risquera de s'attirer des ennuis en évitant de dire que je suis passé chez moi. Il a dû recevoir des instructions impérieuses à ce sujet. D'autre part, je ne puis envoyer personne à ma place. 3 heures. Je me suis arrêtée dans un hôtel de la rue Saint-Antoine, tout près de la Bastille. Voici le truc que j'ai trouvé pour entrer en communication avec mon concierge. Je lui ai envoyé un petit bleu où je lui disais que je ne faisais que passer 1 heure à Paris, le temps d'aller d'une gare à l'autre, sans préciser. Mais j'ajoutais que je rentrerais avant 2 jours. En attendant, je voulais savoir ce qu'il y avait dans mon courrier. Je le priais donc de décacheter toutes les lettres arrivées depuis mon départ. « Je vous téléphonerai, » ajoutai-je, « pour vous demander ce qu'il y a d'intéressant dans ce courrier. Je sais que vous n'avez pas le téléphone, mais je vous ferai appeler par le débit de tabac qui est en face de chez vous. Je vous téléphonerai aujourd'hui ou demain de la ville où je vais maintenant. » Du restaurant où je suis allée prendre mon repas, j'ai demandé le dit Maubrun, mon concierge, un peu après 1 heure. C'était le moment de son déjeuner, il serait sûrement dans sa loge. Je transcris notre entretien. Danton, 5678, vous seriez bien aimable d'appeler d'urgence Monsieur Maubrun, le concierge du 107, la maison d'en face. Vous direz que c'est la personne qui devait lui téléphoner. J'ai attendu 10 minutes, je ne cessais de répéter « Ne coupez pas, ne coupez pas !» Enfin, j'ai entendu un bruit. « C'est vous, monsieur ?»« Oui, monsieur Maubrun, vous avez reçu mon mot, vous avez ouvert les lettres ?»« Oui, oui, il y a une lettre du gaz, puis une de l'électricité, une autre où l'on réclame 200 francs, je n'ai pu lire la signature. »« ça va, rien d'autre ?» Des prospectus. Monsieur est pour rentrer bientôt? Cette semaine. Lui parlerai-je des journaux, des recherches? Oui. J'ai lu dans les journaux qu'on me recherchait pour une histoire absurde, qui ne me regarde en aucune façon. Je n'ai pas voulu donner signe de vie pour une raison toute naturelle, que je vous expliquerai à vous, afin que vous soyez au courant. Silence. Va-t-il dire quelque chose? Il se tait. Est-il encore là? À bientôt, monsieur Maubrun. Au revoir, monsieur. Décidément, je ne crois pas avoir eu tort en faisant allusion à l'affaire. Il aurait trouvé extraordinaire de ne pas m'entendre lui en parler. J'avais une petite crainte particulière que j'ai oublié de noter ce matin. Je me demandais si mon ancienne femme ne m'avait pas accusé réception de l'envoi que je lui avais fait au commencement de mai. Coïncidence périlleuse de la date du crime et de celle de l'envoi. Il me semblait bien avoir écrit sur mon mandat « Inutile de m'accuser réception car je pars en voyage ». Mais cette femme était étourdie et avait pu m'écrire tout de même. Elle en était capable. Comme d'oublier à d'autres moments de répondre à un autre envoi d'argent. Les gens de police, en tout cas, n'ont pas saisi ma correspondance. Je ne sais pas ce qui se pratique d'ordinaire, mais il est possible que mon inculpation ne soit pas très sérieuse à leurs yeux. Enfin, je n'en sais rien. Je ne peux faire à ce sujet que des hypothèses plutôt hasardeuses. Ce qui m'ennuie le plus pour le moment, c'est la question du gîte. Où aller? Je ne connais pas les hôtels de Paris, car j'ai habité depuis ma naissance dans des appartements. C'est la première fois que je viens en voyageur dans ma ville natale. 10 heures du soir. Je ne suis sortie qu'un instant pour aller dîner sommairement au restaurant. J'ai eu la flemme de chercher un autre hôtel aujourd'hui. Nous verrons cela demain. Demain également, je changerai les billets de 1000 qui me restent. Je ne crois pas que l'on m'arrêtera. Mais si on m'arrête et que l'on trouve sur moi ces billets avec les numéros... Car il est décidément très possible que Sarrebri ait gardé la liste des numéros. On faisait cela dans son jeune temps, et ce serait tout à fait arbitraire de supposer qu'il n'a pas pris cette précaution. Cette chambre est encore plus étrangère que toutes celles que j'ai connues. Cet hôtel doit avoir ses habitués, des familles ou des voyageurs de commerce, natifs de différentes villes de la Bourgogne ou du Dauphiné, réseau du PLM. J'ai voulu voir la bonne. C'est une femme entre deux âges, pas spécialement moche, mais aucun être au monde n'aurait l'idée de la désirer. Bien que nous soyons en juin, la journée a été assez fraîche, surtout pour un homme qui vient du midi. Or, la literie comporte une couverture trop mince et un édredon trop lourd. Je vais passer là-dedans une nuit abominable, coupée de réveil où je retrouverai, fidèle au poste, le grand souci de ma vie. Demain, je me mettrai à la recherche d'un autre hôtel meublé en moderne, avec des meubles tout simples, des cubes en noyer ciré. Je ne serai pas davantage chez moi, mais je serai moins chez les autres qu'entre ces fauteuils de reps où se sont assis tant de gens que je ne connais pas. Quel marasme ! Je suis obligée de prendre la plume pour me certifier par écrit que je n'ai pas lieu d'être inquiet, qu'il est impossible que les gens de police me rejoignent. Je n'ai laissé derrière moi aucune trace. S'ils me pincent, ce sera tout à fait par hasard. Et comme disent les gens du turf, ça vaut une cote. C'est du 1000 contre 1, du 3000. En admettant qu'il existe des détectives extraordinaires, comme les livres nous en présentent, la tâche est au-dessus de leur force. Encore une fois, je ne suis pas de ces pauvres bougres qui vont se faire prendre bêtement dans les maisons publiques. Les chances que j'ai contre moi, je sais fort bien les évaluer. Je ne suis pas le seul criminel qu'on recherche. Il y a toute une série de policiers qui sont en quête de quelqu'un. Le gibier le plus adroit est toujours en péril le jour de l'ouverture. Oui, oui, mais pas de ces comparaisons-là, elles vont fausser mes pronostics. Il y a beaucoup plus de chasseurs qu'il n'y a de policiers. Je sais très bien que la toute petite chance que j'ai d'être pris, je puis la réduire à rien, en ne sortant jamais, en évitant les mauvaises rencontres. Mais quelle vie ! C'est me condamner à la réclusion perpétuelle. Ma prison, dans cet hôtel ou dans un autre, est aussi triste qu'une prison officielle. Ce n'est pas le remords qui me tourmente. Vraiment, j'ai beau chercher au fond de moi-même, je n'ai aucun remords. Suis-je un être abominable ou non? Ce n'est pas la question. Je constate, je n'ai pas de remords. Si je m'en veux, ce n'est pas d'avoir tué. Ce que j'éprouve, c'est le regret d'avoir empoisonné ma vie avec cette menace d'arrestation. Je me répète que je ne serai pas arrêtée, que ma crainte est exagérée. Telle qu'elle est, justifiée ou non, elle me fait mal. Je me dis que la vie n'était pas gaie avant. J'étais tourmentée par de graves ennuis, par l'affreux manque d'argent. Aurais-je pu m'en tirer autrement? Ce n'est pas sûr. Et au prix de quels efforts douloureux! Combiner des démarches, aller voir des gens, me cogner contre des refus. Avec Sarrebri, j'ai employé la manière forte, un coup de marteau, et j'ai anéanti sa mauvaise volonté. Mais c'est cet ennui, l'ennui, l'ennui! Il est terrible! Il se trouve que je ne suis pas le premier venu. Si j'étais une brute, l'ennui me ferait moins souffrir. Je suis donc douée, ou affligée, d'une sensibilité avide. Il faut un aliment à mon esprit. Lire? Non. J'aimais lire quand je fréquentais des gens. Je me créais une supériorité. Je sortais mes notions nouvelles comme des cravates neuves. Oui, je me créais une supériorité. Ce qui me manque, c'est de n'avoir personne avec qui me mesurer. J'ai joué jadis au bridge et à la belote. J'étais content, heureux, quand j'avais des jeux supérieurs. Et ce n'était pas par amour de l'argent, on jouait des sous, rien du tout, des haricots. Maintenant, je suis interdit de jeu, mis en dehors des compétitions. Tout de même, si je trouve quelque part une équipe de bridge ou un partenaire de belote à deux, c'est plus facile à rencontrer. J'ai un petit espoir de m'ennuyer un peu moins. Seulement voilà, aussitôt que je me raccroche à la vie, mon cauchemar d'être arrêté me reprend. Résolution. Je veux m'en foutre. Il est peu probable qu'ils m'arrêteront. Bien entendu, je ne vais pas faire toutes les terrasses des cafés et multiplier ainsi sottement les petites chances que j'ai d'être aperçu et pincé. Des policiers sont mêlés à cette affaire et surtout, ceux qui sont le plus à craindre, les parents de Sarrebris et leur police privée. Ceux-là doivent en mettre davantage, car pour eux, il y a du fric au bout du succès. Ah, c'est le danger. Il faut être prudent. Mais se garder d'une prudence excessive, de rester chez soi, de s'affoler avec des craintes imbéciles. Ce matin encore, au restaurant, il m'a semblé qu'un type me regardait. Je suis même arrivée à trouver qu'il avait, en jeune, les traits de Sarrebris. Je me serais giflée pour me laisser prendre par ces idées-là. Je vais me coucher, après avoir pris deux bons petits cachets. N'est-ce pas trop tôt après le dîner ? Non, ma digestion est faite. 4 heures du matin. Je m'étais couchée. Le lit n'était pas mauvais, comme je le craignais. Il était même bon. J'ai éprouvé quelques minutes de félicité complète avant de m'endormir. Et voilà que bêtement, stupidement, idiotement, je me suis réveillée il y a 1 heure avec une angoisse folle. En dormant, ou à moitié éveillé, il m'a semblé entendre un remue-ménage dans la chambre à côté. Et j'ai été persuadée, sûre, absolument certain, qu'il y avait là des gens, pour moi, derrière la porte d'entrée de ma chambre, qui donne sur le couloir, et derrière la porte fermée au verrou qui communique avec l'autre chambre. J'ai entendu distinctement un bruit de lime sur du bois. Une fois bien éveillé, je n'ai plus rien entendu. Pour me punir, j'ai quitté mon lit et je me suis installée à ma table pour écrire tout cela. Maintenant, ça va mieux, ça va tout à fait bien. Mais si ça me reprend comme ça tout le temps, en me couchant tous les soirs, je m'attendrai à ce que ça recommence. Je n'ose plus me recoucher. Mon lit me fait peur. C'est un ennemi. Et ce qui me décourage aussi, c'est que je perds même la confiance que j'avais pour me calmer dans cette confession écrite. Je n'ai plus d'influence sur moi. Je croyais avoir quelque pouvoir sur cette bête errante. Elle s'échappe et s'en va, m'emmène je ne sais où. Il vaut mieux tout de même me recoucher. Je ne vais pas rester sur cette chaise où j'ai le souci de l'équilibre de mon corps. Au lit, je m'abandonne. Je ne lutte plus contre la pesanteur. Lève-toi et laisse-toi aller sur ta couche. Il ne tombera pas plus bas, le paquet de ce torse, de cette tête, de ses jambes et de ses bras. Et puis, je dis adieu à mon papier. Je n'écrirai même plus. 7 juin. J'écris ces mots du dépôt. J'ai été arrêté ce matin. Je ne sais pas comment ils m'ont eu. Je ne le saurai peut-être jamais. Je n'ai pas osé le demander aux inspecteurs, qui sans doute ne me l'auraient pas dit. Ça s'est passé au restaurant de l'hôtel, exactement après déjeuner. Il est probable qu'ils étaient là depuis ce matin. 2 inspecteurs et un petit jeune homme à pince-nez. Je crois savoir, mais je n'en suis pas encore sûre, que lui, c'était le parent de Sarrebris. Ils m'ont laissé déjeuner. J'étais descendue sans chapeau. Ils pensaient sans doute que je remonterais à ma chambre après déjeuner, qu'il valait mieux me laisser manger là pour n'avoir point à s'occuper de mon repas. Comme je sortais de la salle à manger, je vis un homme au bas de l'escalier. Il paraissait attendre un voyageur. Je montai l'escalier. Sans se presser, il monta derrière moi, et je n'y fis même pas attention. Comme j'arrivais sur le palier du premier étage et que je m'approchais de l'escalier du second, un autre homme déboucha du couloir, s'arrêta devant moi. « Paul Duméry ?» Je le regardais un peu surpris, mais non interloqué. Il tenait dans la main gauche une carte qu'il me montra, la remit dans la poche de son veston. « Je suis chargé de vous conduire à la police judiciaire. » Je fis un mouvement pour me retourner à cause du monsieur que j'avais entendu monter derrière moi et qui allait se trouver témoin de cette scène. Mais je m'aperçus tout de suite, à sa figure, qu'elle ne le surprenait pas. Ils me prirent chacun par un bras. J'avais décidé depuis longtemps que si l'on m'arrêtait, je ne ferais aucune résistance. On m'avait raconté des histoires de torture, de trucs effrayants employés par les gens de police pour arracher des aveux. À quoi bon nier si j'étais pris? Il manquait de preuves contre moi? Mais il faudrait discuter, se débattre pour un succès incertain. J'avais revu souvent, ou plutôt imaginé, la bonne femme d'en face, sur le palier de Sarrebris, celle qui avait vu un homme sortir de chez la victime. Et surtout, je ne voulais pas être mis à la question. Celui des hommes qui m'avait parlé tout d'abord me dit très vite, à demi-voix, « Vous avez à répondre d'un homicide commis sur le sieur Sarrebris. » Je ne me rebiffai même pas. L'autre homme me mit les menottes et ils m'entraînèrent doucement dans l'escalier. Un taxi attendait devant la porte. C'est à ce moment que j'aperçus sur le trottoir le monsieur à binocle. D'après ce que je crois, celui-là n'était pas de la police, mais un parent de Sarrebris. Il me regarda d'un air dur. Les inspecteurs, eux, étaient plus placides et sans brutalité. J'étais un de leurs clients habituels. Et, du moment que je ne faisais pas de résistance, ils ne songeaient nullement à me molester. Ils me firent monter dans le taxi, ou plutôt, l'un monta d'abord, et moi, je m'assis à sa droite, les mains sur les genoux. Elles avaient l'air réunies tout naturellement, et il fallait bien regarder pour apercevoir les menottes. Mais ça me donnait une attitude gentille et réservée. L'autre inspecteur s'installa sur le strapontin. Ils n'indiquèrent aucune adresse au chauffeur, qui démarra. Je me demandais où était la police judiciaire. Au palais de justice? Je n'étais pas renseignée du tout. En tout cas, ça ne devait pas être loin de la rue Saint-Antoine, où ces gens m'avaient cueilli. Celui qui était assis à ma gauche était un grand blond qui portait une petite moustache. Il avait l'air assez distingué. L'autre, celui du strapontin, l'homme qui, à l'hôtel, avait monté l'escalier derrière moi, était trapu, brun, plus moustachu que l'autre et plus commun. Simplement pour parler, je leur demandais « C'est loin où vous me conduisez ?» Aucune réponse immédiate. Au bout d'un instant, l'homme du strapontin « Vous y arriverez toujours assez tôt. » Il ajouta tout de suite « Au quai des Orfèvres. » Ça ne me disait rien. J'ai beau être native de Paris, et peut-être précisément parce que je suis d'ici, tout en connaissant ces noms de quai, je ne les situe pas. Quand on n'est pas en relation suivie avec les services officiels qui y sont installés, on n'a pas souvent l'occasion d'aller dans ces voies-là, où il y a peu de magasins et où demeurent peu de particuliers. Au bout d'un instant, je sentis le besoin de ranimer la conversation. « C'est là-bas que je dois être interrogée ?»« Oui, mais si vous avez quelque chose à dire avant, ne vous gênez pas. » Cela fut proféré par le grand homme blond avec un peu de blague et une voix aimable. Je voulais lui répondre tout de suite, mais je ne trouvais pas instantanément la formule. Je ne voulais pas dire « J'ai tué Sarrebris ». J'étais gênée de prononcer devant ces gens convenables des paroles qui évoquaient des actes anormaux et violents. Je finis par dire « Je ferai des aveux ». Ils hochèrent la tête en même temps en signe d'approbation. « Ça vaut mieux, » dit l'homme blond. Je me rends compte maintenant, en écrivant ceci, du soulagement. Étrange au premier abord, et assez naturel à la réflexion, que j'éprouvais à l'idée que je me libérais d'un secret et que j'allais pouvoir parler à des gens de cette histoire, si pesante pour un homme seul. Très occupé à examiner, sans insistance visible, mes deux compagnons de route, je ne regardais pas au dehors, et la voiture s'arrêta, plus tôt que je n'aurais cru, sur le quai des Orfèvres. L'homme du strapontin fut le premier à terre et m'aida à descendre, moins par obligeance que parce que je n'avais pas la liberté de mes mouvements. Il n'y avait aucun piéton sur le trottoir, car l'endroit est très peu passant, sinon pour les voitures qui gagnent le Pont-Neuf pour aller sur la rive droite. L'inspecteur blond régla le taxi et nous entrâmes tous trois sous le porche, sans exciter la moindre curiosité chez les quelques vagues employés qui s'y trouvaient et qui étaient probablement blasés sur ce genre de rencontre. Nous montâmes l'escalier qui conduit à la police judiciaire et nous entrâmes dans une pièce meublée administrativement. Je m'assis à côté de l'homme trapu pendant que l'homme blond allait nous annoncer à quelqu'un qu'il mettrait sans doute au courant de mes confidences. J'aurais voulu poser quelques questions à l'autre inspecteur. Comment avait-on découvert ma trace? C'est ce qui m'intriguait. Et j'avais remarqué qu'à l'hôtel, au moment où l'on m'arrêtait, le personnel s'était mis à l'écart, sans doute pour ne pas me gêner. Mais par timidité, je n'osais interroger mon compagnon. J'essayais pourtant d'amorcer un entretien. « On va m'interroger. C'est-à-dire que vous allez déposer comme témoin. »« Comme témoin? C'est le juge d'instruction qui vous interrogera demain, celui qui est commis pour votre affaire. Le commissaire ici ne pourrait poser des questions qu'en présence d'un défenseur. » À ce moment, l'homme blond revint et nous fit signe de le suivre. On ne m'avait pas fait attendre longtemps, et j'étais en droit de me dire que l'on me traitait comme un visiteur d'importance. Un homme imberbe et grisonnant se trouvait assis derrière un bureau. À sa gauche, sur le côté étroit de la table, un secrétaire rangeait des papiers. Petit regard de curiosité du chef. Autre regard, assez furtif, du secrétaire. Ces personnes n'avaient pas l'air de m'en vouloir. L'homme grisonnant me fit signe de m'asseoir sur une chaise en face de lui. « Votre nom ?» Une petite toux pour m'éclaircir la voix. « Paul Duméry. » « Lieu de naissance ?» « Paris, 7 janvier 1898. »« Vous avez déjà subi des condamnations ?» « Aucune. » « Vous avez fait votre service militaire ?» « À Caen, 72e d'infanterie. Je ne suis pas sorti gradé. J'étais scribe au bureau du chef. » « Vous avez des diplômes universitaires ?»« Bachelier S-Sciences. » Il continua, sans donner à sa voix le moindre accent de gravité. « Un homicide a été commis le 8 mai dernier, rue Mêlée, sur la personne d'Achille Salebris. »« Sarebris ?» Ça rebrille, oui. Pourquoi consulter son papier? Il me semble que si quelqu'un était au courant, c'était plutôt moi. Qu'avez-vous à dire? J'avoue être l'auteur de cet homicide. Quel mobile? L'argent. Cet interrogatoire, ou comme il disait, cette déposition, ne pouvait être qu'assez sommaire. Un aveu si rapide enlève beaucoup d'aliments à la conversation. Il me semblait que ça ne pouvait s'arrêter là. Et comme le commissaire levait légèrement la tête en me regardant, j'eus l'impression que lui et mes autres auditeurs attendaient d'autres détails. Alors je racontai ma visite à Sarrebry. Je n'en reproduis pas ici les termes. C'était banal, sans relief. Je mentionnai simplement le caractère un peu machinal de cet acte. J'éprouvai comme une pudeur à donner à mon récit une allure tendancieuse de défense. Je me disais qu'il resterait sceptique devant cette interprétation, et j'évitais malgré moi ce qui pouvait paraître discutable, éveiller de l'incrédulité et rompre la bonne harmonie de ce groupe. On me fit signer ma déposition, que le secrétaire venait de transcrire. Le commissaire avait sonné, deux gardes municipaux entrèrent dans la pièce. Ils savaient qu'ils avaient à me conduire au dépôt. Je fis au commissaire et aux autres personnes un salut de tête assez prononcé, auquel ils répondirent par un geste analogue, simplement plus léger, poli en somme. Je suis fatigué et je passe un peu vite, sauf à y revenir plus tard, sur mon arrivée au dépôt. On ne sort pas du palais, on traverse deux ou trois cours. J'ai pénétré dans une sorte de vestibule ou de hall. On m'a fait entrer dans une petite salle où l'on m'a encore demandé des renseignements. Nom, âge, etc. Puis j'ai posé sur un tampon ancré l'extrémité de mon pouce gauche et j'ai fait une tâche obligatoire sur la feuille de papier. On m'a fouillé. Est-ce avant? Est-ce après? Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est avant. On a pris mon argent que l'on a mis de côté. On a pris ma clé de coffre. Je ne portais plus mon pistolet automatique. Il est resté à l'hôtel, dans le tiroir de ma table de nuit. Puis j'ai été conduit à une cellule. C'est beaucoup moins effrayant que dans la légende. Évidemment, c'est simple, mais pas trop étroit. Il y a des cabinets bien nettoyés, un robinet d'eau de source. J'ai demandé au gardien si l'on pouvait écrire. Il m'a apporté de la cantine, du papier, de l'encre, un porte-plume et des plumes. Ce que j'écrirai n'est pas pour le dehors. Du moment que ça ne va pas à la poste et que je le garde sur moi, personne n'a rien à y voir. Le lit est petit, mais je ne tiens pas au lit large, et je vais dormir, dormir avec un énorme souci de moins. 8 juin, 10 heures. Ce matin, à 8 heures, j'ai reçu une visite, déjà. Quelqu'un de chez un avocat, M. Martin Jeffeté, il y a 7 ans, avait plaidé contre moi, ou plutôt contre une compagnie d'assurance où j'étais accrédité. Le procès avait été perdu par la compagnie. Or, cet avocat, en lisant dans les journaux que j'avais été arrêté, s'autorisait de nos anciennes relations pour me proposer de me défendre. Les 3 ou 4 fois où j'étais allé le voir pour une transaction, il ne m'avait pas été très sympathique. Mais enfin, je ne connaissais pas d'autre avocat, en dehors de 2 anciens condisciples à moi que j'avais à peu près perdu de vue. On m'a conduit dans une petite pièce qui ressemblait à une cellule et où j'ai vu ce monsieur du barreau. C'est un grand type qui doit avoir dans les 35 ans. Il est poli, mais sans cordialité. Et surtout, il a un air supérieur assez déplaisant. Je lui ai dit que j'avais avoué. Il a incliné la tête, sans approbation, sans désapprobation. Cela signifiait, je suppose, qu'il prenait note de ce point. C'est un de ces hommes qui vous écoutent patiemment, qui hochent trop souvent la tête et n'ont pas l'air de vous écouter. Vous n'êtes qu'un comparse, il a pris la direction du jeu. J'ai signé un papier pour dire que j'avais fait choix de M. Martin Jeffeté comme défenseur. Je le hais. Le même jour, 7 heures du soir. On m'a conduit chez le juge. On a compris que je n'avais aucune idée de rébellion ni de fuite, et l'on ne m'a pas remis mes menottes que l'on m'avait enlevées hier soir quand j'ai été dans ma cellule. Je n'ai pas mentionné ce détail dans mon journal d'hier, mais cela va de soi, puisque j'ai pu écrire. Le juge d'instruction m'a interrogé à 3 heures. J'ai attendu quelques minutes dans un vestibule où M. Martin Jeffeté est venu me retrouver. Il a avec moi des airs de cornac, de patrons qui me déplaisent souverainement. Je suis décidée à lui dire le moins de choses possible. À Monsieur Tréjean, le juge, tant qu'il voudra. C'est un grand maigre qui a la tête penchée vers l'épaule. Il a une voix un peu chantante, et quand il a reçu une réponse, il fait lentement « Oui, oui ». Regarde le plafond comme s'il réfléchissait. Mais je me demande à quoi il peut réfléchir. Mon affaire est très claire. Je ne les chicane pas, je fais de pleins aveux. Je ne cherche même pas à atténuer ma culpabilité. Je vois bien que le juge cherche à établir ma préméditation. Et moi, bien que ce soit un peu la vérité, il me semble difficile de dire que j'avais pris dans ma poche l'arme du crime avec l'idée que je ne m'en servirais pas. Martin Jeffeté discute peu. Il a posé deux ou trois questions que j'ai même oubliées. Je ne savais pas où il voulait en venir. Pendant qu'il parlait, le grand homme maigre, qui pouvait de moins en moins soutenir sa tête, avait dans les yeux, sans regarder l'avocat, quelque chose qui souriait vaguement. Prenait-il mon avocat pour un médiocre? C'est ce qui me rendit assez sympathique, mon grand inquisiteur. Je me souviens maintenant d'un détail au sujet du Martin Jeffeté en question. Lors du procès que ma compagnie avait soutenu contre lui, le directeur du contentieux, qui est mort aujourd'hui et qui était un petit vieillard très fin, m'avait dit du mal de cet avocat. Et comme je lui demandais si ce Martin Jeffeté était israélite, il me répondit « de temps en temps ». Il compléta cette indication en expliquant que ce nom de Jeffeté, juif ou protestant, permettait au monsieur de choisir sa religion selon les circonstances, ou plutôt selon les personnes avec qui il se trouvait en relation. Le juge d'instruction a décidé qu'il m'interrogerait encore demain. Pourquoi ? Je me le demande. Je n'ai plus rien à dire. Je coucherai donc encore ce soir au dépôt et ne changerai de pension que demain après-midi. Demain matin, on me conduira au bureau de l'anthropométrie où l'on me fera ma photo. J'ai eu de la cantine une petite côtelette, pas mauvaise, une purée de pommes de terre, un peu de gruyère et des cerises. Je me coucherai de bonne heure, parce que demain matin il faudra se lever assez tôt. Je suis assez fatiguée. Non que ces deux journées aient été trop dures, c'est de la fatigue d'avant. Mon arrestation, mes interrogatoires ne m'ont pas émue. Mais peut-être tout cela m'a-t-il secoué plus que je n'en ai eu conscience. Prison de la Santé, 9 juin, 7 heures du soir. Ce matin, on m'a conduit à l'anthropométrie. Il y a un passage particulier pour les gens du dépôt. Au bout de ce passage, un escalier de pierre de 100 marches. On est en plein Moyen-Âge. Là-haut, on vous ouvre une porte et l'on se trouve brusquement au XXe siècle. Moi, je ne faisais pas partie d'une fournée. Je venais là en client isolé. Je n'ai donc pas séjourné dans un petit parc de quelques pieds carrés entouré d'une barrière. On m'a conduit tout de suite à la mensuration, puis à la photographie. On m'a pris sur un carton 4 ou 5 empreintes digitales. On m'avait remis au dépôt la fiche sommaire que l'on avait établie l'avant-veille et qui s'ornait d'une empreinte de pouce. On a confronté les deux pièces pour être sûr que l'individu que l'on a mené là était bien celui que l'on avait incarcéré 2 jours auparavant. Je ne crois pas qu'il me donne des épreuves de ma photo. J'ai vu sur les tables quelques images de personnes qui m'avaient précédé. Sur le même carton, un portrait de face sans chapeau, un autre avec la coiffure, et un profil non coiffé. De la sorte, ils auront tous les documents nécessaires pour me repincer, le cas échéant. Mais il y a peu de chances pour que je devienne un récidiviste. D'abord, ce n'est pas dans mes goûts. Et ensuite, je crois bien que l'on me mettra bientôt pour l'éternité hors d'état de contrevenir aux lois humaines. Je calcule. deux ou trois mois pour faire venir mon affaire devant les assises, quelques mois ensuite pour exécuter la sentence. Je ne dis pas cela pour conjurer le sort en mettant les choses au pis. Très nettement, je ne me vois pas obtenant des circonstances atténuantes. Le plus que je puisse espérer, c'est la Guyane pour toute la vie. J'aime autant, sinon mieux, la peine au-dessus. Si c'est le bagne, quelle existence, car je ne m'évaderai jamais, ces actes-là ne sont pas dans mes moyens. J'ai fait connaissance aujourd'hui avec l'autobus de la préfecture. Nous étions une demi-douzaine de passagers. J'avais pour camarades de route quelques délinquants sans intérêt avec qui je n'ai pas communiqué, car on m'a amené le dernier au moment où ils étaient tous installés dans la voiture, chacun dans sa petite case. Je ne les ai aperçus qu'à l'arrivée à la santé, et encore assez mal. Cette façon de voyager vous isole plutôt du paysage. Le roulement de l'auto, des arrêts au carrefour, on a conscience des virages que lorsqu'ils sont franchement à angle droit. C'est interminable. À l'arrivée du fourgon, on m'a fait descendre le premier. Je suis restée un instant sur le perron, à côté d'un monsieur qui se trouvait là, probablement un inspecteur. Les camarades ont passé devant moi. J'ai eu le loisir de jeter un coup d'œil sur la cour d'entrée qui est toute feuillue de lierre. Ces constructions en briques sont d'un aspect agréable. Séance au greffe. Nouvel interrogatoire d'identité. Ils finiront par me connaître. On a encore pris une empreinte de mon pouce. C'est effrayant ce que dans ce métier-là il faut se salir le bout des doigts. Puis j'ai attendu un grand temps dans un petit réduit qui ressemble à un petit endroit où manquerait l'essentiel. Tous les voyageurs passent à la fouille, une fouille bien plus complète qu'au dépôt. On vous fait mettre tout nu. Mes compagnons de route avaient déjà subi cette formalité. C'est pour cela que l'on m'avait fait attendre. Après cette séance, un petit tour dans la salle contiguë où se trouvent des appareils à douche. Je n'aime pas ça. C'est la première épreuve vraiment vexatoire depuis mon arrestation. Je suis allée ensuite, accompagnée par un gardien, jusqu'à la lingerie qui se trouve dans le même couloir. Là, un homme paisible, vêtu d'une façon sobre, effacé, j'ai su depuis que c'était un détenu, m'a remis un paquet, des draps, des serviettes et une chemise. Les couloirs de la santé ressemblent à ceux de ces palaces allemands nouveaux modèles. C'est propre et un peu austère. Beaucoup de grilles, de passerelles de fer, de rails aériens. J'ai voyagé deux étés de suite en auto avec un camarade à moi, qui est maintenant au Brésil. C'est moi qui avais le guide en main pour le choix des hôtels. Selon leur importance, le petit dessin comporte une, deux, trois et jusqu'à cinq tourelles dans les grandes stations balnéaires. Entre le modeste dépôt et la santé, il y a bien deux tourelles d'écart. Je suis arrivée à la cellule qui m'attendait. Elle est un peu plus spacieuse que celle du dépôt. Il n'y a pas grande différence. On m'apportera de quoi écrire, de la cantine, et aussi mes deux repas quotidiens. Le matin, je prendrai l'air dans le préau. Le gardien m'a demandé si je voulais un livre. Il m'a conduit fort obligeamment à la bibliothèque. Là se trouvait le bibliothécaire, un autre détenu, un jeune homme fort distingué. J'aurais voulu lui demander pour quel motif il se trouvait dans cette maison. Devant le gardien, je n'ai pas osé. Pourquoi ? Il ne m'aurait peut-être rien dit. Mais je suis un nouveau venu dans la maison, et je n'en connais pas les usages. J'ai pris un livre au hasard. Il y avait sur les rayons toute une collection d'auteurs célèbres dans un cartonnage d'éditeurs. Ils sont à l'état de neuf. Est-ce parce qu'ils sont bien entretenus ou parce qu'ils ne sont pas fatigués par les lecteurs ? J'ai choisi un roman de Balzac. J'ai toujours admiré ce grand écrivain. Mais je ne crois pas que je le lirai. je suis devenue, depuis le 8 mai, incapable d'une attention soutenue. Je n'ai plus qu'un appétit stomacal. Il se maintient bien, heureusement, et je le retrouve fidèle à l'heure des repas, 9h30 et 15h30. Cet après-midi, vers 2h, j'ai reçu la visite de Monsieur Martin Jeffeté. On est venu me chercher et l'on m'a conduit au parloir. Dans un grand couloir, analogue à ceux des cellules, il y a sur tout un côté de petites chambres sévères, meublées simplement d'une table et de deux chaises. C'est là qu'ont lieu nos entretiens avec nos défenseurs. Monsieur Martin Jeffeté m'attendait, assis à la table. Je suis restée seule avec lui. Il m'a demandé si je me trouvais bien dans ma cellule, si je n'avais pas de réclamation à formuler, si je n'avais besoin de rien, toutes questions posées avec une sollicitude si évidemment de commande qu'on n'avait qu'une idée, c'était de l'en libérer au plus vite. Oui, j'étais bien. Non, je ne réclamais pas. Non, je n'avais besoin de rien. De sa serviette, il a sorti une pile de journaux et m'a donné à lire tout ce qui concernait mon arrestation et mon affaire, qui est devenue son affaire. Car il avait fait certainement sa tournée dans les salles de rédaction, et personne n'avait omis de dire que M. Martin Jeffeté était chargé de la défense. Dans quelques feuilles, il avait obtenu des épithètes comme « brillant », voire « éminent ». Il avait arrêté déjà le plan de sa défense. J'avais avoué, il n'y avait pas à revenir là-dessus. Mais, à sa vive déconvenue, je ne pus lui signaler le moindre cas de maladie mentale chez mes ascendants. Je crois bien que si j'en avais connu un, je l'aurais passé sous silence. Et j'aurais perdu allègrement cet élément de ma défense, plutôt que d'en faire hommage à cet avocat. Il m'a questionné sur sa rubrie, avec l'idée, bien entendu, de le noircir à l'audience. Je me suis montré d'abord très réservé. Et puis, j'ai songé que j'étais absurde, et j'ai fini tout de même par dire ce que je pense de ma victime, un homme d'affaires louche et bassement cupide. Mon défenseur m'a écouté avec attention. J'ai dû prendre mon parti de son contentement. 10 juin, après dîner. J'ai dormi. J'ai assez bien dormi la nuit dernière. La journée a été terriblement longue. Je n'ai eu comme distraction qu'une séance chez le barbier. À 4h, j'ai eu l'idée de demander un jeu de cartes pour faire des réussites. Mais le gardien m'a dit que c'était défendu. Alors j'ai demandé à mon compte 2 grandes feuilles de papier carton. J'ai découpé 32 morceaux sur lesquels j'ai écrit « As de trèfle »,« Roi de trèfle » et ainsi de suite. Chez moi, à des moments de désœuvrement, j'en ai connu, j'avais souvent fait des patiences jusqu'à une heure avancée de la nuit. Cet exercice a l'avantage de créer des péripéties artificielles. Comment vais-je me trouver une case libre afin d'y remonter ce roi qui est juste placé sur cet as et qui s'oppose à sa libération? Aujourd'hui, j'ai fait de ces patiences pendant plus d'une heure. J'ai ouvert mon roman de Balzac, j'y suis resté quelques minutes et je suis revenu à mes réussites. Juin, après dîner. Je ne sais pas exactement quelle est la date qu'il faut inscrire avant juin. Je crois que je n'ai rien écrit depuis 3 jours. 4 jours ? Martin Jeffeté n'est pas revenu. J'avoue que je l'ai attendu. J'aime mieux voir des gens que je déteste que pas de gens du tout. 15 juin, le soir. Aujourd'hui, journée d'émotion. Quelqu'un m'a demandé au parloir. C'était mon ancienne femme qui venait me voir avec son type. Le parloir, c'est pour chaque pensionnaire de la santé, un réduit derrière 2 grilles séparées par 1/2 mètre. De l'autre côté de la 2e grille, les visiteurs. Ils sont restés 10 minutes pendant lesquelles on ne s'est à peu près rien dit. Elle n'a cessé de pleurer, si bien que j'ai pleuré à mon tour. Albert, son type, assistait à cette scène avec un air triste et résigné. Elle répétait de temps en temps « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Elle n'attendait pas de réponse et pleurait de plus belle. À la fin, elle m'a dit « On va te laisser. » « Vous êtes bien gentil d'être venu. » « Tu penses ?» Je leur ai dit de revenir bientôt. Il faut être aimable. Quand je suis rentrée dans ma cellule, j'ai pensé à ma femme et je me suis demandé si ça m'aurait intéressé de coucher avec elle. J'aurais voulu avoir un petit désir, fût-ce sous la forme d'un regret. Mais vraiment, ça ne me disait rien. Alors, j'ai passé en revue dans ma tête toutes les femmes que j'avais plus ou moins approchées. Il ne s'agissait pas des récentes, comme Jeanne de Monte-Carlo. De celle-là, je ne recevrai aucune nouvelle, je ne lui avais pas donné mon nom, et j'avais pris le nom de jeune fille d'une de mes tantes par alliance. Jeanne, dans mon souvenir, n'était pas encore assez lointaine pour m'inspirer de la curiosité. Je passais en revue mon sérail imaginaire. J'avais pensé quelquefois à la patronne de mon restaurant, une dame brune, assez forte, qui portait un binocle. J'ai toujours désiré plus particulièrement les personnes d'un aspect légèrement respectable. C'est ainsi que, dans ma maison, j'ai souvent croisé dans l'escalier un grand chameau blond qui habitait au-dessus de mon étage et donnait des leçons d'anglais. J'aurais voulu faire sa connaissance, mais l'occasion ne s'était jamais présentée. D'ailleurs, je n'ai jamais fait d'effort pour la faire naître. Je sentais obscurément que les rapports avec cet être un peu maussade ne seraient pas aussi intéressants que dans mon imagination, surtout quand elle était fertilisée par une chasteté prolongée. L'effectif de mes souvenirs était en somme assez restreint. Mais je pouvais l'augmenter avec des visions de personnes qui n'avaient passé que furtivement dans ma vie. La femme très brune de cet architecte, je l'avais rencontrée avec son mari, chez Dobel. La receveuse des postes, dans cette station de bain de mer. Je me rendis compte des ressources appréciables que peut offrir à un prisonnier ce genre de rêverie stimulée. Les craintes que j'avais pu avoir pour ma santé, elles n'avaient plus de raison d'être, puisque ma vie était limitée. Dès tout à l'heure, aussitôt couchée, je retrouverai en pensée la patronne du restaurant ? Non, la maîtresse d'anglais. Comme il faut croire dans ces évocations à une réalisation possible, j'imaginerai que je m'évade, sans douleur, que je vais jusque dans ma rue. Le hasard, qui dans ses rêveries se tient à votre disposition, me fera rencontrer cette personne à 30 pas de chez moi. Je l'emmènerai à l'hôtel, je la déshabillerai lentement. Il ne faut pas se presser. Je la verrai monter dans le lit, en chemise, avec sa large croupe un peu carrée. Couchons-nous. Voilà un bon canevas de roman que je développerai une fois au lit en faisant durer le plus que je pourrai les péripéties. 16 juin, 4 heures après-midi. Hier soir, l'aventure avec la maîtresse d'anglais a été un peu trop rapide, mais on se retrouvera. 18 juin, au soir. Hier, journée monotone. Aujourd'hui, petite distraction. La visite de mon avocat. Il paraît assez ennuyé, parce que le juge d'instruction, qui trouve l'affaire très claire, veut me faire passer en cour d'assises dans un délai record, c'est-à-dire vers la fin de juillet. « Je vois pourquoi, » me dit M. Martin Jeffeté. « Il doit recevoir de l'avancement prochainement, avant les vacances, et il voudrait que cette instruction fût terminée par lui. » « Je vois bien. Il craint sans doute de n'être pas compris dans le prochain mouvement si l'on se dit qu'il a des affaires en train. » Et il voudrait les expédier avant le mois d'août, pour ne pas manquer le coche. Autrement, vous ne passeriez qu'en octobre, après vacation. Mais on pourra toujours s'arranger pour ne pas passer si tôt. Je lui ai répondu que ça m'était égal, et même que je préférais, le plus tôt possible, être fixé sur mon sort. Je me demandais pourquoi il ne voulait pas me voir juger en juillet, et j'ai fini par trouver cette raison. Il s'intéressait, pour sa publicité personnelle, au retentissement de mon affaire. Or, à ce point de vue, la saison d'été est moins favorable. C'était certainement cela. Je me décidai alors, pour contrecarrer ses visées, à insister pour qu'il ne s'opposât pas à l'idée du juge. « Je veux être fixé au plus vite », ai-je répété. Et vraiment, je commençais à en avoir déjà assez de la santé. La séance de la cour d'assises, si redoutable, allait mettre de la variété dans ma vie. La fin juillet, ce serait dans 40 jours. C'était loin. Peut-être, s'il s'était agi de me juger le lendemain, aurais-je, par pusillanimité, accueilli avec satisfaction l'idée d'un sursis.